www.fréquenceromane.com. Vous êtes branché en permanence. Séminariste et ancien Gartuisse.
En effet, donc je suis neuchâtelois d'origine et j'ai effectué mon service à Rome entre novembre 2003 et janvier 2006, donc une période de 2 ans et demi, un petit peu plus que les 2 ans de service minimum. Et puis j'ai eu, au cours de ces 2 ans de service, l'occasion de rencontrer Jean-Paul II, de vivre le conclave ainsi que l'élection de Benoît XVI le 19 avril 2005.
C'est une grande richesse. Alors, comment est-ce que vous avez commencé votre service? Vous avez pu voir Jean-Paul II dans sa maladie? Comment est-ce que vous avez vécu ça, au contact avec le bienheureux Jean-Paul II désormais?
Alors, le contact était très distant, parce que je suis arrivé donc en 2003. C'était dans les 2 dernières années de son pontificat. Il était déjà bien malade, bien distant, c'est-à-dire assis sur son fauteuil. Les audiences n'étaient plus celles qui étaient dans les années 90. Donc, mais toujours des regards, toujours une attention vers le garde qui était devant la porte ou à côté de lui au trône, etc. Et puis une occasion de le rencontrer le jour du 6 mai, le jour de la cérémonie, on se présente et on présente ses parents au pape, et c'était Jean-Paul II. Et en fait, c'est assez étonnant de voir, donc il ne m'a pas parlé, il ne s'est pas exprimé verbalement, mais je me suis présenté, puis je lui ai dit très sympère, ma maman, mon papa, puis j'ai dit un mot sur chacun. Et vraiment, il a levé les yeux sur les deux, et puis même il bavait un petit peu, ou enfin il était pas à l'aise, et il a relevé le regard quand je lui dis maman, etc. Et il a vraiment cherché le regard de chacun, et ça c'est un souvenir, même si j'ai pas échangé verbalement, le regard était vraiment présent.
Comment est-ce que vous avez vécu son décès, le fait que bien sûr c'était très médiatisé, mais vous étiez même au cœur, on peut dire, de cette centrale nucléaire de Grasse, malgré que c'était tragique, la mort du bienheureux Jean-Paul II, mais comment vous l'avez vécu vous-même?
Alors on l'a senti venir, entre guillemets, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire qu'on savait que sa santé s'amoindrissait, les communiqués de presse l'annonçaient aussi, et puis les derniers jours de sa vie, le vendredi et le samedi, je me souviens qu'à la garde, jamais la chapelle n'avait été aussi remplie, c'est-à-dire qu'il y avait la messe du soir comme d'habitude, mais l'ensemble des gardes, tous ceux qui pouvaient, étaient réunis à la messe pour prier, pour le Saint-Père. Et le jour même du décès, le samedi soir, moi je dormais parce que je prenais le service de nuit à partir de 4h. Puis le téléphone a sonné dans ma chambre. C'était une amie en France qui m'a téléphoné en me disant « Jean-Paul II est mort ». Puis le téléphone s'est raccroché. Et puis j'étais là, bon, alors j'ai allumé la télévision qu'il y avait dans la chambre, j'ai vu les premières images. Et ensuite je suis parti en fait tout de suite en service en me disant « il y aura certainement besoin de renforcer en fait le service aux entrées ». Et puis moi j'ai travaillé durant la nuit à l'entrée de Sainte-Anne. En fait, c'était impressionnant de voir les gens qui venaient simplement pour être là. Il n'y avait rien à voir, c'était minuit le soir, mais le premier numéro de l'Osservatore Romano sortait en édition spéciale. Et en fait, il le vendait un peu à la criée sur le bord du Vatican. Et les gens étaient là simplement pour être là. Il n'y avait rien à voir, on ne savait pas ce qui se passait. Mais les gens venaient, en fait, il y avait la foule qui commençait à venir. Et puis j'ai une belle anecdote aussi, c'est qu'un ancien garde, un ami, un valaisan, quand il a appris le décès de Jean-Paul II, c'était le samedi soir, il a dit à son épouse « Écoute, j'ai quelque chose à faire ce week-end ». Il a pris la voiture, il est descendu à Rome, il est arrivé le dimanche dans l'après-midi, il est venu voir Jean-Paul II, vu qu'on pouvait monter le personnel du Vatican voir le défunt pape. Il a pu prier à ses côtés, puis il est reparti le dimanche soir pour rentrer en Suisse. Et en fait, il avait vraiment besoin d'aller retrouver le pape qu'il avait servi. Donc il y a beaucoup de rencontres comme ça, étonnantes. Aussi un souvenir aussi très beau le jour de l'enterrement, donc c'était le vendredi d'après, le 8 avril. J'étais aussi en nouveau à service en Sainte-Anne. Puis au milieu de la route, arrive après un Polonais qui voulait aller acheter les photos de la célébration. Au moment de partir, il passe à côté de moi et puis Il ne parle pas l'italien, moi je ne parle pas le polonais. On a réussi à se communiquer et puis il m'a dit « Thanks for your work », donc merci pour votre travail. Il avait l'air tellement ému, enfin, j'aurais voulu le prendre dans les bras et lui dire ben voilà, pleure un coup. Il a roulé 36 heures pour arriver jusque-là, puis dormir je ne sais où dans la rue pour être présent à l'enterrement. Et c'était une petite attention d'un coup. En fait, on représentait, entre guillemets, par notre service de garde suisse, quelque chose du pape.
Et vous avez pu donc faire la sentinelle auprès de la dépouille de Jean-Paul II lorsque des millions de personnes sont venues à la basilique Saint-Pierre. Racontez-nous un peu.
Alors en effet, comme on dit dans le jargon du service de la garde suisse, on a fait les Totenwache, c'est-à-dire la garde du mort, du défunt. Et c'est un moment assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on est durant nuit et jour dans la chapelle, dans la salle Clémentine, les trois premiers jours, et puis ensuite à la basilique. Et c'est impressionnant de se rendre compte qu'on est là, on faisait des services de 1 heure chaque fois, puis on faisait 6 heures de service, mais 1 heure de pause, 1 heure de sentinelle. Et donc d'être présent à côté du pape, fixe comme ça, de regarder, en fait, de voir le flux des gens qui passaient, sans, eux ne pouvaient même pas s'arrêter dire à notre Père ou faire une petite prière, c'était toujours avanti, avanti, prego, prego, avanti. Et essayer de se dire, bah, tiens, je suis là, et les regards que je croise, les gens que je vois, essayer de les porter dans la prière, puis essayer de se dire, bon, voilà, je suis là pour tous ceux qui attendent dehors, tous ceux qui s'imaginaient qu'il y en a qui ont passé la nuit dehors en faisant le serpentin pour arriver à la basilique et ne pas pouvoir s'arrêter. Donc c'était vraiment une grâce d'être là à côté de lui. Alors ça fait un peu bizarre de te dire on garde quelqu'un qui est mort, mais tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait, présenté pour l'Église et qui a en fait touché le cœur des gens en voyant la masse de pèlerins qui sont venus.
Et l'émergence du cardinal Ratzinger, vous avez pu participer à la messe des funérailles hein, du bienheureux Jean-Paul II. Comment vous l'avez vu arriver, le cardinal Ratzinger? Parce qu'on a l'impression qu'il a tout de suite pris sa place en fait, de doyen des cardinaux pour gérer les cardinaux pour la vacance du siège apostolique, puis la messe des funérailles et puis le conclave. Comment est-ce que vous avez perçu sa personnalité et qui il était?
Je dirais qu'il ne s'est pas mis en avant, c'est-à-dire qu'il a pris, comme on dit souvent, chacun fait seulement et totalement ce qui lui revient, et lui, comme doyen, a fait ce qui lui revenait de mener ce collège des cardinaux. Il n'a pas été... Moi, j'ai toujours trouvé un homme très humble, très discret aussi dans sa période comme cardinal. On le voyait passer ou il venait célébrer aussi une fois ou l'autre à la messe de la chapelle de la garde suisse. Mais une discrétion et simplement d'accomplir son devoir, ce qui lui revenait, de célébrer les funérailles, c'était lui, mais ça aurait pu être un autre. En fait, c'était lui le doyen à ce moment. Et puis, l'anecdote aussi nous dit souvent qu'en fait, il avait demandé plusieurs fois la démission de rentrer en Allemagne pour la congrégation de la foi. Puis, il paraît qu'avant de partir, il préparait en fait ses cartons pour se dire, après ce conclave, je rentre en Allemagne. Et puis, en fait, il a vraiment fait une grande humilité, c'est-à-dire qu'il ne s'imaginait pas du tout la tournure qu'a eu l'histoire et le conclave, et d'une discrétion et d'une humilité qui se reflète aussi dans cette décision de ce mois de janvier, de dire, de février, j'en suis là, mais humblement, je prends une décision.